Abdu'l-Bahá à Londres. Votre narrateur, Dominique Marshall. Partie 1. Allocution publique. Chapitre 1.1. Le temple de la cité. Introduction. Le 10 septembre 1911, le premier dimanche après son arrivée en Angleterre, répondant aux souhaits du pasteur, le révérend R.J. Campbell, Abdu'l-Bahá parla du haut de la chaire du temple de la cité lors de l'assemblée du soir. Bien que la venue de Abdu'l-Bahá n'ait pas été annoncée, l'église était pleine à craquer. Peu oublieront l'image de cette figure vénérable, vêtue de son habit oriental, montant les marches de la chaire pour la première allocution de sa vie lors d'une réunion publique. Que ce fût dans un lieu de culte chrétien en Occident, avait en soi une profonde signification. Le révérend Campbell présenta le visiteur en ces quelques mots simples. « Nous, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous et sera toujours la lumière du monde, voyons avec sympathie et respect chaque mouvement de l'Esprit de Dieu dans le champ de l'humanité. Et donc, nous saluons Abdu'l-Bahá au nom de tous ceux qui partagent l'esprit de notre Seigneur et essaient de vivre leur vie dans cet esprit. Le mouvement Bahaï est très ressemblant. Je pense que je pourrais dire identique au dessein spirituel de la chrétienté. » Avant de quitter l'église, Abdu'l-Bahá écrivit, dans l'ancienne Bible utilisée par des générations de prêcheurs, en persan, sa propre langue maternelle, les mots suivants dont voici la traduction, inscription dans l'ancienne Bible, nota, inscription écrite en persan par Abdu'l-Bahá. Ce livre est le livre saint de Dieu, d'inspiration céleste. C'est la Bible du salut, le noble évangile. C'est le mystère du royaume et sa lumière. C'est la bonté divine, le signe de la guidance de Dieu. Abdu'l-Bahá Abbas. Chapitre 1.2. Allocution donnée par Abdu'l-Bahá au Temple de la Cité, dimanche 10 septembre 1911. Ô nobles amis, vous qui êtes dans la quête de Dieu, louange soit à Dieu. Aujourd'hui, la lumière de vérité brille en abondance sur le monde. Les brises du jardin céleste soufflent sur toutes les régions. L'appel du royaume s'entend dans toutes les contrées. Et tous les cœurs fidèles ressentent le souffle du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu donne la vie éternelle. En cet âge merveilleux, l'Est est illuminé, l'Ouest est embaumé, et partout l'âme respire le saint parfum. La mère de l'unité de l'humanité soulève ses vagues avec joie, car il existe une réelle communication entre les cœurs et les esprits des hommes. La bannière du Saint-Esprit a été hissée, et les hommes la voient, et sont réconfortés de savoir que c'est un jour nouveau. C'est un nouveau cycle du pouvoir humain. Tous les horizons du monde sont lumineux, et le monde deviendra en vérité pareil à un jardin et à un paradis. C'est l'heure de l'unité des fils des hommes et du rassemblement de toutes les races et de toutes les classes. Vous êtes délivrés des anciennes superstitions qui ont maintenu les hommes dans l'ignorance, détruisant les fondations de la véritable humanité. Le don de Dieu en cet âge illuminé est la connaissance de l'unicité de l'humanité et de l'unicité fondamentale de la religion. La guerre cessera entre les nations, et par la volonté de Dieu, la plus grande paix viendra. Le monde sera perçu comme un nouveau monde, et tous les hommes vivront comme des frères. Jadis, un instinct belliqueux s'était développé dans la lutte contre les animaux sauvages. Ce n'est plus nécessaire, au contraire, on reconnaît que la coopération et la compréhension mutuelle concourent à rendre l'humanité plus prospère. L'inimitié n'est maintenant que le résultat du préjugé. Dans les paroles cachées, Baha'u'llah dit « Ce que j'aime par-dessus tout est la justice ». Voir les paroles cachées 1-2. Louange à Dieu. Dans ce pays, le niveau de la justice s'est élevé. un grand effort est fait pour donner en toute équité une véritable place à toutes les âmes. C'est le désir de toutes les natures nobles. C'est aujourd'hui l'enseignement pour l'Est et pour l'Ouest. Ainsi, l'Est et l'Ouest se comprendront, se respecteront et s'embrasseront comme des amoureux longtemps séparés qui se sont retrouvés. Il n'y a qu'un Dieu. L'humanité est une. Les fondements de la religion sont un. Adorons-le et rendons grâce pour tous ces grands prophètes et messagers qui ont manifesté son éclat et sa gloire. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous dans toute sa richesse, et que chaque âme puisse la recevoir librement et selon sa capacité. Amen. Nota, allocution donnée en persan par Abdu'l-Bahá du haut de la chaire du Temple de la Cité. La traduction anglaise fut lue à l'Assemblée par M. W. Tudor Paul. Cette allocution a été imprimée avec l'aimable autorisation de The Christian Commonwealth du 13 septembre 1911. Chapitre 1.3 Église de Saint-Jean à Westminster, introduction. Le 17 septembre, à la demande de l'archidiacre de Westminster, Abdu'l-Bahá donna une allocution après le service du soir, devant une assemblée de paroissiens de l'église de Saint-Jean le Divin. Nota, cette église située à Smith Square a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Par quelques mots chaleureux caractéristiques de toute son attitude, l'archidiacre Wilberforce présenta le révérend messager de l'Est, qui avait traversé terres et mers afin d'accomplir la mission de paix et d'unité pour laquelle il avait souffert 40 années de captivité et de persécution. L'archidiacre avait fait placer la chaire de l'évêque pour son invité sur les marches du cœur, et se tenant à ses côtés, il lut lui-même la traduction de l'allocution de Abdu'l-Bahá. L'assemblée fut profondément émue, et suivant l'exemple de l'archidiacre, s'agenouilla pour recevoir la bénédiction du serviteur de Dieu qui se tenait debout, bras grands ouverts, sa voix merveilleuse s'élevant et retombant dans le silence avec toute la puissance de son invocation. L'archidiacre prononça ces mots. En vérité, l'Est et l'Ouest se sont rencontrés ce soir en ce lieu sacré. L'hymne « Ô Dieu, notre aide dans les temps passés » fut chanté debout par l'assistance entière, alors que Abdu'l-Bahá et l'archidiacre descendaient les bas-côtés, main dans la main, en direction de la sacristie. À l'extérieur de l'église, les membres de l'armée du salut tenaient une réunion, et Abdu'l-Bahá fut très impressionné et touché à la vue de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants rassemblés dans la nuit au coin de la rue, priant et chantant. Chapitre 1.4 Discours de Abdu'l-Bahá à l'église de Saint-Jean à Westminster. Dimanche 17 septembre 1911. Ô nobles amis, ô vous qui êtes en quête du royaume de Dieu. Les hommes partout dans le monde cherchent Dieu. Tout ce qui existe est Dieu. Mais la réalité de la divinité est sainte, au-delà de toute compréhension. Les images de la divinité qui viennent à notre esprit sont le produit de notre fantaisie. Elles existent dans le royaume de notre imagination. Elles ne sont pas conformes à la vérité. La vérité dans son essence ne peut être mise sous forme de mots. La divinité ne peut être comprise, car c'est elle qui comprend. L'homme qui a aussi une existence réelle est compris de Dieu. Ainsi, n'est-ce qu'une partie de la divinité que l'homme peut comprendre, et non la totalité. La divinité est la vérité même et la véritable existence, et non une quelconque représentation de celle-ci. La divinité elle-même contient tout, elle n'est pas contenue. Bien que le minéral, le végétal, l'animal et l'homme aient une existence réelle, le minéral n'a cependant aucune connaissance du végétal. Il ne peut pas l'appréhender, il ne peut pas l'imaginer ni le comprendre. Il en est de même pour le végétal. Quels que soient les progrès qu'il puisse accomplir, et quel que soit le degré de développement qu'il puisse atteindre, il n'appréhendera jamais l'animal, ni ne le comprendra. il restera pour ainsi dire sans information sur lui. Il n'a ni ouïe, ni vue, ni entendement. Il en est de même pour l'animal. Aussi loin qu'il puisse progresser dans son propre règne, aussi affiné que deviennent ses sens, il n'aura aucune notion réelle du monde de l'homme ou des facultés intellectuelles spécifiques à l'homme. L'animal ne peut comprendre que la Terre est ronde, ni son mouvement dans l'espace, ni la position centrale du soleil. Il ne peut imaginer une chose telle que l'infini du ciel. Bien que le minéral, le végétal, l'animal et l'homme soient des êtres réels, la différence entre leurs règnes empêche les membres d'un degré inférieur de comprendre l'essence et la nature de ceux d'un degré supérieur. Cela étant, comment le temporel et le phénoménal pourraient-ils comprendre le Seigneur des armées célestes? Il est clair que c'est impossible. Mais l'essence de la divinité, le soleil de vérité, brille sur tous les horizons et rayonne sur toutes les choses. Chaque créature est le réceptacle d'une certaine quantité de ce pouvoir, et l'homme, qui possède la perfection du minéral, du végétal et de l'animal, ainsi que ses propres qualités spécifiques, est devenu le plus noble des êtres créés. Il est écrit qu'il a été fait à l'image de Dieu. Les mystères qui étaient cachés, il les découvre, et les secrets qui étaient enfouis, il les porte à la lumière. Par la science et au moyen de l'art, il introduit dans le domaine du monde visible des pouvoirs jusqu'ici cachés. L'homme perçoit la loi cachée dans les choses créées et travaille avec elle. Enfin, l'homme parfait, le prophète, est celui qui est transfiguré, celui qui a la pureté et la clarté d'un miroir parfait, celui qui réfléchit le soleil de vérité. D'un tel être, d'un tel prophète et messager, nous pouvons dire que la lumière de la divinité demeure en lui avec les perfections célestes. Si nous prétendons que le soleil se voit dans le miroir, nous ne voulons pas dire que le soleil lui-même est descendu des saintes hauteurs de son paradis et est entré dans le miroir. C'est impossible. La nature divine se voit dans les manifestations et sa lumière et sa splendeur y sont visibles au plus haut degré de la gloire. Ainsi, les prophètes de Dieu ont toujours enseigné et guidé les hommes. Les prophètes de Dieu sont les médiateurs de Dieu. Tous les prophètes et tous les messagers sont venus d'un unique Saint-Esprit et portent le message de Dieu adapté à l'âge dans lequel ils apparaissent. La même lumière est en eux et ils sont un. Mais l'éternel ne devient pas phénoménal, tout comme le phénoménal ne peut devenir éternel. Saint Paul, le grand apôtre, a dit « Et nous tous, qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande, par le Seigneur qui est Esprit. » Voir 2 Corinthiens 3, 18, la Bible, traduction œcuménique en français. Ô Dieu, celui qui pardonne, ô éducateur céleste, cette assemblée est parée de la mention de ton saint nom. Tes enfants tournent leur visage vers ton royaume, les cœurs sont rendus heureux et les âmes sont réconfortées. Dieu miséricordieux, fais que nous nous repentissions de nos défauts. Accepte-nous dans ton royaume céleste et donne-nous une demeure dans laquelle il n'y aura pas d'erreur. Donne-nous la paix, donne-nous la connaissance et ouvre-nous les portes de ton paradis. Tu es celui qui donne tout, tu es celui qui pardonne. Tu es le miséricordieux. Amen. Chapitre 1.5 La société théosophique, introduction. Le 30 septembre 1911, Abdul-Baha rencontra la société théosophique à son nouveau siège, à la demande expresse de sa présidente, Madame Annie Besant. Après un aperçu historique du mouvement et les mots chaleureux de bienvenue de M. A.P. Sinnott, Abdul-Baha se leva et donna à un très vaste auditoire une allocution sur les signes distinctifs de l'enseignement bahaï, faisant chaleureusement l'éloge de l'ardeur de la société dans sa quête de la vérité. Chapitre 1.6 Discours donné par Abdul-Baha au siège théosophique, samedi 30 septembre 1911. Ô assemblée digne de respect, ô amis de la vérité, la nature inhérente du feu est de brûler, la nature inhérente de l'électricité est de donner la lumière, la nature inhérente du soleil est de briller, et la nature inhérente de la terre organique est le pouvoir de croissance. Il est impossible de dissocier une chose et ses qualités inhérentes. C'est la nature inhérente des choses de cette terre de changer. Ainsi, voyons-nous autour de nous le changement des saisons. Chaque printemps est suivi d'un été, et chaque automne apporte un hiver. Chaque jour, une nuit, et chaque soir, un matin. Il existe une séquence en toutes choses. Ainsi, quand la haine et l'animosité, le combat, le massacre, et une grande froideur de cœur gouvernaient le monde, et que l'obscurité avait enveloppé les nations, Baha'u'llah, telle une lumière brillante, s'éleva à l'horizon de la Perse et brilla de sa grande lumière de direction, donnant un rayonnement céleste et établissant un nouvel enseignement. Il énonça les principales vertus humaines. Il manifesta les pouvoirs spirituels et mit ceux-ci en pratique dans le monde qui l'entourait. Premièrement, il mit l'accent sur la recherche de la vérité. C'est très important, parce que les hommes sont trop facilement menés par la tradition. C'est à cause de cela qu'il y a souvent des antagonismes et des disputes parmi eux. Mais l'apparition de la vérité perce à travers l'obscurité et devient la cause de l'unicité de la foi et de la croyance. Car la vérité ne peut être double, cela n'est pas possible. Deuxièmement, Baha'u'llah enseigna l'unicité de l'humanité. Cela revient à dire que tous les enfants des hommes sont sous la miséricorde de ce Dieu qui est grand. Ils sont les enfants d'un seul Dieu. Ils sont éduqués par Dieu. Il a placé la couronne de l'humanité sur la tête de chacun des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi toutes les nations et tous les peuples doivent se considérer comme frères. Ils sont tous les descendants d'Adam. Ils sont les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits d'un seul arbre. Ils sont les perles d'un seul coquillage. Mais les enfants des hommes sont en manque d'éducation et de civilisation, et ils ont besoin d'être polis jusqu'à ce qu'ils deviennent éclatants et brillants. L'homme et la femme devraient être tous deux également éduqués et également considérés. Ce sont les préjugés raciaux, nationalistes, religieux et les préjugés de classe qui ont été la cause de la destruction de l'humanité. Troisièmement, Baha'u'llah enseigna que la religion est le fondement principal de l'amour et de l'unité, et la cause de l'unicité. Si une religion devient cause de haine et de désaccord, il vaudrait mieux qu'elle n'existât point. Vivre sans une telle religion est préférable. Quatrièmement, la religion et la science sont entrelacées et ne peuvent pas être séparées. Ce sont les deux ailes avec lesquelles l'humanité doit voler. Une seule aile n'est pas suffisante. Toute religion qui ne se sent pas concernée par la science est une simple tradition, et cela n'est pas l'essentiel. C'est pourquoi la science, l'éducation et la civilisation sont une nécessité impérieuse pour une vie religieuse pleine. Cinquièmement, la réalité des religions divines est une, car la réalité est une et ne peut être double. Tous les prophètes sont unis et constants dans leur message. Ils sont comme le soleil. De saison en saison, ils s'élèvent de différents points de l'horizon. C'est pourquoi chaque prophète dans le passé a annoncé la bonne nouvelle de celui qui viendra. Et chaque nouveau prophète a accepté ceux du passé. Sixièmement, l'égalité et la fraternité doivent être établies parmi tous les membres de l'humanité. Cela est conforme à la justice. Les droits généraux de l'humanité doivent être garantis et préservés. Tous les hommes doivent être également traités. Ceci est inhérent à la nature même de l'humanité. Septièmement, les dispositions prises quant aux conditions de vie du peuple doivent être telles que la pauvreté disparaisse et que chacun autant que possible et en fonction de sa position et de son rang, bénéficie d'un certain confort. à l'instar des nobles et des autres personnes de haut rang qui vivent dans l'aisance, les pauvres aussi devraient pouvoir recevoir leur nourriture quotidienne et ne pas être réduits à souffrir de la faim. Huitièmement, Baha'u'llah annonça la venue de la plus grande paix. Toutes les nations et tous les peuples se rassembleront à l'ombre de la tente de la grande paix et de la grande harmonie, ce qui revient à dire qu'un grand conseil d'arbitrage sera établi lors d'une élection générale afin de régler tous les différends et toutes les querelles entre les puissances pour que les conflits ne finissent pas en guerre. Neuvièmement, Baha'u'llah enseigna que les cœurs doivent recevoir la bonté du Saint-Esprit afin que la civilisation spirituelle soit établie, car la civilisation matérielle ne peut satisfaire les besoins de l'humanité et ne peut être la source de son bonheur. La civilisation matérielle est comme le corps et la civilisation spirituelle comme l'âme. Le corps ne peut vivre sans l'âme. Cela est un bref résumé des enseignements de Baha'u'llah. Pour les énoncer, Baha'u'llah endura maintes peines et difficultés. Il fut constamment emprisonné et endura une grande persécution. Mais dans la forteresse, il édifia un palais spirituel, et de l'obscurité de sa prison, il fit rayonner une grande lumière sur le monde. Nota, forteresse d'Akka, aujourd'hui Akko en Israël, ville encore appelée Saint-Jean d'Acre dans les ouvrages d'histoire. C'est l'ardent désir des Baha'is de mettre en pratique ces enseignements, et ils s'efforceront de tout leur cœur et de toute leur âme de consacrer leur vie à cet idéal jusqu'à ce que la lumière céleste éclaire le monde entier. Je suis très heureux d'avoir pu parler avec vous lors de cette rencontre et j'espère que ma profonde conviction vous est acceptable. Je prie pour vous afin que vous puissiez réussir dans vos aspirations et que les bontés du royaume puissent vous combler. Chapitre 1.7 La réception d'adieu, introduction. Le soir de la Saint-Michel, une grande réception d'adieu fut organisée en l'honneur de Abdu'l-Bahá dans la salle comble de l'établissement Passmore Edwards, nota, aujourd'hui le centre Mary Ward, avec des représentants de toutes les confessions, certains venant de loin. Sur l'estrade, des hommes de différentes sensibilités de pensée entouraient Abdu'l-Bahá. Ils étaient présents pour exprimer toute leur sympathie pour le travail et la mission de leur grand visiteur. Le professeur Michael A. Sadler présidait la soirée. La réunion débuta par la prière du Notre Père, récitée par l'assistance tout entière, suivie de la prière pour l'unité de Baha'u'llah et d'une prière du 5e siècle attribuée au pape Gélase. Nota, le pape Gélase Ier, 492-496. Ensuite, le professeur Sadler s'exprima d'une manière telle que quiconque l'ayant écouté ne pourra oublier les mots qu'il prononça. Dans son allocution, il énonça un passage d'une prière universelle qui avait été soumise à Abdu'l-Bahá par un Bahá'í fervent, l'année précédente en Égypte, et que Abdu'l-Bahá avait complété et approuvé pour que les croyants de toute religion puissent la réciter aussi bien dans l'Est que dans l'Ouest. Le président de séance fut suivi par Sir Richard Stapley, M. Eric Hammond, M. Claude Montefiore, Mme Stannard d'Égypte et bien d'autres encore. Alors que Abdu'l-Bahá quittait la salle, les pauvres gens du voisinage se pressèrent sur le trottoir pour le voir, et une petite fille au regard avide, estropiée et portant des béquilles, lui fut présentée. Chapitre 1.8 Réunion d'adieu à Abdu'l-Bahá. Vendredi 29 septembre 1911. Reproduit avec l'aimable autorisation de The Christian Commonwealth du 4 octobre 1911. Sur invitation de Madame Turnbull Cropper, environ 460 personnes de tous milieux se rassemblèrent dans la salle de l'établissement Passmore Edwards sur la place Tavistock, le dernier vendredi au soir, pour dire adieu à Abdu'l-Bahá Abbas la veille de son départ pour Paris. Étant arrivé à Londres le lundi 4 septembre au soir, il venait de passer parmi nous 4 semaines heureuses et bien remplies. À l'exception d'une courte visite à Bristol la semaine précédente, il demeura au 97 Cadogan Gardens, nota, voire longue note ci-dessous. Le plus clair de son temps consistait en entretien avec les personnes qui désiraient le rencontrer. Il y avait de nombreux membres de grandes familles de ce pays, et d'autres qui avaient parcouru de longs trajets pour le voir. Un merveilleux esprit régnait ce vendredi soir. L'atmosphère était très différente de celle d'une réunion ordinaire ou d'un simple rassemblement religieux. Tous ceux présents se sentirent enrichis par le caractère élevé et spirituel du déroulement de la soirée. Les propos tenus furent tous empreints de fraternité, d'unité et de paix. Bien que leur compte-rendu n'eût donné qu'une idée imprécise de l'effet produit, ces discours furent tellement bien conçus, si sincères et si exquisément prononcés qu'ils étaient dignes d'être reproduits. Parmi d'autres, Amir Ali-Sayyid écrivit pour exprimer son regret de ne pouvoir être présent, et l'archidiacre Wilberforce envoya ses salutations affectueuses. Après la prière du Notre Père et les prières pour l'unité de Baha'u'llah et de Gélaz, nota le pape Gélaz Ier, 492-496, le professeur Michael Sadler prit la parole dans les termes suivants. Discours du professeur Michael Sadler. Nous nous sommes rassemblés pour dire adieu à Abdu'l-Baha et rendre grâce à Dieu pour son exemple et son enseignement et pour le pouvoir de ses prières qui apportent la lumière aux pensées confuses, l'espoir là où réside la crainte, la foi là où le doute régnait et au cœur troublé l'amour qui domine la quête du moi et la peur. Bien que nous tous, dans notre allégeance pleine de dévotion, ayons nos propres convictions individuelles, Abdu'l-Baha nous a apporté et nous apporte à tous un message d'unité, de sympathie et de paix. Il nous invite tous à être vrais et sincères dans notre profession de foi et à préserver par-dessus tout l'esprit au-delà de la lettre. Avec lui, nous nous inclinons devant le non caché, devant ce qui est en chaque vie la vie intérieure. Il nous invite à prier en conservant une loyauté sans faille à l'égard de notre propre foi, mais en aspirant encore plus à l'union, la fraternité et l'amour, et en nous tournant de tout notre cœur vers l'Esprit, afin que nous soyons mieux pénétrés de l'Esprit de Dieu, qui est au-dessus de toute classe, au-dessus de toute race et au-delà du temps. Le professeur Sadler conclut avec une magnifique prière de James Martineau. Monsieur Eric Hammond expliqua que le mouvement Baha'i travaillait pour l'unité. Un seul Dieu, un seul peuple. Une myriade d'âmes manifestant l'unité divine. Une unité tellement complète qu'aucune différence de couleur ou de croyance ne pourrait différencier une manifestation de Dieu d'une autre. Et une sympathie si vaste qu'elle inclut le plus humble, le plus insignifiant, le plus pauvre des hommes. L'unité, la sympathie et la fraternité menant à la concorde universelle. Il conclut avec une parole de Baha'u'llah selon laquelle la cause divine du bien universel ne pouvait se limiter ni à l'Est ni à l'Ouest. Mademoiselle Alice Buckton déclara que nous étions aux prémices d'un des printemps du monde et que l'influence de cette assemblée de personnes qui incarnent la pensée, le travail et l'amour se répandrait tout autour du monde, contribuant à l'unité et à la fraternité. L'égalité totale entre les hommes et les femmes est l'un des points clés de l'enseignement Baha'i. Sir Richard Stapley remarqua que l'unité ne devait pas se rechercher dans les formes et les signes extérieurs de la religion, mais dans l'esprit intérieur. En Perse, il y avait eu une telle impulsion vers la véritable unité que c'en était une leçon pour ce pays dit chrétien. Monsieur Claude Montefiore, en tant que juif, se réjouit de voir grandir cet esprit d'unité, et cette réunion lui parut la prophétie d'un temps meilleur à venir, et en quelque sorte l'accomplissement de l'idée exprimée par Sir Thomas More, qui tomba martyr de la foi catholique romaine. Nota, Thomas More fut décapité en 1535 pour avoir refusé de récuser l'autorité du pape et pour ne pas avoir approuvé le divorce d'Henri VIII de Catherine d'Aragon. Après avoir écrit sur la grande église des utopistes, nota « utopiste » a remplacé « utopien » vers 1790, Larousse, où sont rassemblées toutes sortes de croyances et où le service et la liturgie expriment l'unité la plus grande tout en tolérant des engagements particuliers. Madame Stannard insista sur ce que signifiait pour l'Est cette réunion et les sentiments exprimés ici, spécialement pour les femmes, dont la condition était difficile à comprendre pour l'Occident. Tamadun ul-Mulk témoigna de l'effet unificateur que le mouvement Baha'i avait eu en Perse et de la merveilleuse façon dont il s'était répandu en Amérique et dans d'autres pays. Enfin, Abdu'l-Baha se leva pour donner une allocution en guise d'adieu. Avec une figure impressionnante, le visage plutôt fatigué, mais le regard animé, il resta debout pendant environ 15 minutes, parlant un persan doux et mélodieux. Les bras tendus, les paumes vers le haut, il termina par une prière. Nota. À propos de l'appartement du Cadogan Gardens de Lady Blomfield, Sarah Louisa, celle-ci est née en 1859 en Irlande d'une mère protestante et d'un père catholique. Elle acceptera la révélation de Baha'u'llah en 1907 à Paris, après avoir entendu parler de la foi par Mademoiselle Bertha Herbert à l'occasion d'une réception chez Madame Monod. Bertha Herbert lui fera rencontrer par la suite Mademoiselle Ethel Rosenberg et Hippolyte Dreyfus, premier français Baha'i. De retour à Londres, elle rencontrera Madame Thornburg Cropper, voir aussi les deux notes du chapitre 2-23, un mariage Baha'i. Abdu'l-Baha lui fera l'honneur, en réponse à son invitation, de résider chez elle à Londres, au 97 Cadogan Gardens, en septembre 1911. Lady Blomfield suivra Abdu'l-Baha à Paris, début octobre 1911. Elle sera l'une des quatre femmes qui, grâce à leur prise de notes, seront à l'origine de la publication des causeries d'Abdu'l-Baha à Paris. Lors de sa seconde venue en Grande-Bretagne, Abdu'l-Baha retournera à Londres chez Lady Blomfield. Elle demandera la permission d'envoyer un message au roi George V, mais Abdu'l-Baha l'en dissuadera pour prévenir toute incompréhension. Lady Blomfield se mettra au service des blessés durant la Première Guerre mondiale tout en restant une active Baha'i. Au printemps 1918, son action auprès de Lord Lamington permettra que le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, Arthur Balfour, télégraphie au général Allenby de protéger Abdu'l-Baha, sa famille et ses amis. Elle recevra le nom de Sitari Ranum de Abdu'l-Baha. Elle fera partie des quelques Baha'is qui auront à consoler le gardien Shori Effendi à l'ascension de Abdu'l-Baha et qui l'accompagneront jusqu'à Haïfa pour commencer à l'assister sur place dans ses lourdes tâches. Elle y servira plusieurs mois durant l'absence du gardien en 1922. Plus tard, de retour en Angleterre, elle écrira un livre sur tout ce qu'elle put voir et apprendre lors de son séjour en Terre Sainte. Elle décédera le dernier jour de 1939, quelques semaines après avoir terminé la rédaction de son livre « The Chosen Highway », dont la main de la cause de Dieu, Hassan Baliouzi, écrira à sa demande la préface, mais qu'elle n'aura jamais l'occasion de lire. Chapitre 1.9 Allocution d'adieu de Abdu'l-Baha. Ô nobles amis, et vous qui êtes en quête du royaume de Dieu. Il y a environ 60 ans, au temps où le feu de la guerre embrasait les nations du monde, et où le sang versé était considéré comme un honneur pour l'humanité, au temps où le carnage de milliers d'êtres déshonorait la terre, où les enfants étaient rendus orphelins, où les pères étaient privés de fils et les mères se consumaient en sanglots, où l'obscurité de la haine et de l'animosité interraciale semblait envelopper l'humanité et masquer la lumière divine, où la brise du souffle saint de Dieu semblait avoir été coupée, en ce temps-là, Baha'u'llah se leva comme une étoile brillante à l'horizon de la Perse, inspiré par un message de paix et de fraternité pour les hommes. Il apporta la lumière de direction au monde. Il alluma le feu de l'amour et révéla la grande réalité du véritable bien-aimé. Il chercha à détruire les fondements des préjugés de religion, de race et de rivalité politique. Il compara le monde de l'humanité à un arbre. toutes les nations aux branches, et les hommes aux feuilles, aux bourgeons et aux fruits. Sa mission était de changer le fanatisme ignorant en amour universel, d'établir dans l'esprit de ses disciples la base de l'unité de l'humanité et de mettre en pratique l'égalité en son sein. Il déclara que tous les hommes étaient égaux devant la miséricorde et la bonté de Dieu. C'est alors que la porte du royaume s'ouvrit largement et que la lumière d'un nouveau paradis sur terre se révéla aux yeux de ceux qui voient. Cependant, Baha'u'llah connut de grandes épreuves et une tyrannie cruelle tout au long de sa vie. En Perse, il fut jeté en prison, enchaîné et vécut constamment sous la menace de l'épée. Il fut méprisé et flagellé. Quand il eut environ 30 ans, il fut exilé à Bagdad, et de Bagdad à Constantinople, Nota, ancienne capitale de l'Empire ottoman, aujourd'hui connue sous le nom d'Istanbul, et de là à Andrinople, Nota, aujourd'hui Edirne, ville située à la pointe occidentale de la partie européenne de la Turquie, et finalement à la prison de Akka, Nota, aujourd'hui Akko en Israël, ville encore appelée Saint-Jean d'Acre dans les ouvrages d'histoire. Enchaîné de sa cellule, il réussit néanmoins à répandre sa cause et à élever la bannière de l'unicité de l'humanité. Maintenant, Dieu soit loué, nous voyons la lumière de l'amour brillant à l'est et à l'ouest, et la tente de l'amitié est dressée parmi tous les peuples, afin de rassembler tous les cœurs et toutes les âmes. L'appel du royaume a retenti, et l'annonce du besoin de paix universelle a éclairé la conscience du monde. Mon espoir est que grâce au zèle et à l'ardeur de la pureté du cœur, l'obscurité de la haine et des différends soit entièrement dissipée et que la lumière de l'amour et de l'unité brille, que ce monde devienne un monde nouveau, que les choses matérielles deviennent le miroir de la divinité, que les cœurs humains se rencontrent et s'étreignent, et que le monde entier devienne la patrie de l'homme et que les différentes races se confondent en une seule. Alors les disputes et les différends disparaîtront et le divin bien-aimé sera révélé sur cette terre. De même que l'Est et l'Ouest sont illuminés par un seul soleil, de même toutes les races, toutes les nations et toutes les croyances seront considérées comme les serviteurs d'un seul Dieu. La terre entière est un seul foyer, et tous les peuples, si seulement ils en avaient conscience, baignent dans l'unicité de la miséricorde de Dieu. Dieu a tout créé. Il accorde la subsistance à tous. Il les guide et les éduque, tous à l'ombre de sa bonté. Nous devons suivre l'exemple que Dieu nous donne et laisser de côté toutes les disputes et toutes les querelles. Louange soit à Dieu. Les signes de l'amitié apparaissent et en guise de preuve, moi qui viens aujourd'hui de l'Est, j'ai rencontré ici à Londres, en Occident, beaucoup d'amabilité, d'attention et d'amour, et j'en suis profondément reconnaissant et heureux. Je n'oublierai jamais ce temps passé en votre compagnie. J'ai souffert pendant 40 ans dans une prison turque. Puis, en 1908, les jeunes Turcs du comité Union et Progrès ébranlèrent les portes du despotisme et libérèrent tous les prisonniers, moi parmi eux. Je prie pour qu'une bénédiction soit sur tous ceux qui travaillent pour l'Union et le Progrès. Dans le futur, de faux rapports seront répandus concernant Baha'u'llah dans le but d'empêcher l'expansion de la vérité. Je vous dis cela afin que votre attention soit éveillée et que vous soyez préparés. Je vous quitte avec pour prière que toute la beauté du royaume soit vôtre. Regrettant profondément notre séparation, je vous dis au revoir. Nota, la traduction de l'allocution d'adieu ayant été lu par le professeur Sadler, Abdu'l-Baha termina la réunion en donnant sa bénédiction d'un ton très mélodieux. Avant que ces lignes ne soient publiées, Abdu'l-Baha Abbas aura quitté nos rivages, mais le souvenir de sa personnalité pleine de grâce restera vivace en nous. Son influence sera ressentie longtemps encore. Elle a déjà beaucoup contribué à promouvoir cette union de l'Est et de l'Ouest à laquelle tant ont tellement aspiré. Chapitre 1-10, 10 Cheniston Gardens, Londres Ouest. Nota, les notes qui suivent sont extraites de The Quarterly Record of Higher Thought Walk, novembre 1911. L'un des événements les plus intéressants et les plus significatifs qui eurent lieu furent la visite de Abdu'l-Bahá à Londres. Le mage persan, dont la vie passée en prison a été de promouvoir la paix et l'unité par une méthode infaillible qui consiste à aider au développement spirituel individuel, doit avoir au sens propre senti le labeur de son âme et en avoir été satisfait. Non seulement presque tous les vrais chercheurs de vérité et meneurs d'opinion de Londres lui rendirent une visite privée, mais son message fut aussi porté à la connaissance de milliers de gens qui avaient à peine entendu son nom auparavant. Le centre de la Higher Thought était bien connu de Abdu'l-Bahá en tant que lieu où les Bahaïs tenaient leurs réunions hebdomadaires sous la direction de Mademoiselle Rosenberg, et il accepta une invitation à ce centre 2 jours avant son départ. Par l'intermédiaire de son interprète, Abdu'l-Bahá salua aimablement l'assistance et donna une courte et émouvante allocution, insistant sur les bénédictions d'une telle assemblée réunie dans un esprit d'unité et d'aspiration spirituelle. Il conclut par une fervente prière, récitée d'une voix grave dans sa propre langue, et par une bénédiction qui toucha véritablement tous ceux présents. Le jour suivant, Abdu'l-Bahá fit transmettre au centre un message dans lequel il exprimait son entière appréciation de toute l'amabilité déployée à l'égard des Bahaïs, et qui se terminait par ces mots « Peu importe le nom que chacun se donne, le grand travail est unique. Le Christ est pour toujours dans le monde de l'existence. Il n'a jamais disparu. Soyez assurés que le Christ est présent. La beauté spirituelle que nous voyons autour de nous aujourd'hui émane du souffle du Christ. » Chapitre 1.11 Un message de Abdu'l-Bahá pour The Christian Commonwealth, publié le 29 septembre 1911. Dieu envoie des prophètes pour l'éducation des hommes et le progrès de l'humanité. Chacune de ces manifestations de Dieu a élevé l'humanité. Elles servent le monde entier par la bonté de Dieu. La preuve certaine qu'elles sont des manifestations de Dieu réside dans le progrès et l'éducation des hommes. Les Juifs étaient au plus bas degré de l'ignorance et captifs du Pharaon quand Moïse apparut et les éleva à un haut degré de civilisation. Ainsi vint le règne de Salomon et l'humanité connut les sciences et les arts. Les philosophes grecs eux-mêmes étudièrent l'enseignement de Salomon. Il fut donc prouvé que Moïse était un prophète. Avec le temps, les Israélites dépérirent et devinrent les sujets des Romains et des Grecs. Alors la brillante étoile de Jésus s'éleva à l'horizon sur les Israélites, illuminant le monde, jusqu'à ce que la beauté de l'unité soit enseignée à toutes les sectes, croyances et nations. Il ne peut y avoir de meilleure preuve que Jésus fut le Verbe de Dieu. Il en fut de même pour les nations arabes qui, n'étant pas civilisées, subissaient l'oppression des gouvernements perses et grecs. Quand la lumière de Mohammed brilla, toute l'Arabie fut illuminée. Ces peuples opprimés et avilis devinrent éclairés et cultivés, à tel point en effet que les autres nations s'imprégnèrent de la civilisation des Arabes. Ce fut la preuve de la mission divine de Mohammed. Tout l'enseignement des prophètes est un, une seule foi, une seule lumière divine brillant à travers le monde. Maintenant, sous la bannière de l'unicité de l'humanité, tous les peuples de toutes les croyances devraient se détourner des préjugés, devenir amis et croire en tous les prophètes. Tout comme les chrétiens croient en Moïse, les juifs devraient croire en Jésus. Tout comme les musulmans croient dans le Christ et en Moïse, de même les juifs et les chrétiens devraient croire en Mohammed. Alors tous les conflits disparaîtraient et tous seraient unis. Baha'u'llah est venu dans ce dessein. Il a fait de 3 religions une seule. Il a levé au centre du monde l'étendard de l'unicité de la foi et de l'honneur de l'humanité. Aujourd'hui, nous devons nous rassembler autour de cet étendard et essayer de tout notre cœur et de toute notre âme d'établir l'unité du genre humain. Chapitre 1.12 Discours donné à la fête de l'unité chez Mademoiselle Eugy Rosenberg. Vendredi 8 septembre 1911. Nota, Eugy Rosenberg fut la seconde femme des îles britanniques à déclarer sa foi en Baha'u'llah. Louange soit à Dieu, qu'une réunion empreinte de tant de pureté et de fermeté soit tenue à Londres. Les cœurs de ceux qui sont présents sont purs et sont tournés vers le royaume de Dieu. J'espère que tout ce qui est contenu et établi dans les livres saints de Dieu se réalise en vous. Les messagers de Dieu sont les principaux et les premiers éducateurs. À chaque fois que ce monde deviendra obscur, divisé dans ses opinions et indifférent, Dieu enverra l'un de ses saints messagers. Moïse vint dans un temps d'obscurité, quand l'ignorance et l'infantilisme régnaient parmi les hommes et que leur foi chancelait. Moïse fut un éducateur divin. Il donna des enseignements de sainteté et éduqua les Israélites. Il sortit le peuple de son avilissement et lui fit recevoir de grands honneurs. Il leur enseigna les sciences et les arts. Il les conduisit à la civilisation et il développa leurs vertus humaines. Quelque temps après, alors qu'ils avaient oublié ce qu'ils avaient ainsi reçu de Dieu, la voie était prête pour le retour du mal et le monde fut opprimé par la tyrannie. Alors la lumière de réalité se répandit à nouveau et le souffle du Saint-Esprit réapparut. Une nuée de bonté se déversa et la lumière de direction brilla sur la terre. Le monde revêtit un nouvel habit. Le peuple devint un nouveau peuple. L'unicité de l'humanité fut proclamée. La grande unité de pensée transforma l'humanité et créa un monde nouveau. Puis, tout fut encore oublié par les hommes. Les enseignements de Dieu n'influençaient plus leur vie. Ses prophéties et ses commandements perdirent de leur force et s'effacèrent de leur cœur. La tyrannie et l'irréflexion prévalurent une fois de plus. C'est alors que vint Baha'u'llah pour renouveler une fois de plus le fondement de la foi. Il rappela les enseignements de Dieu et comment ils étaient mis en pratique au temps du Christ. Il désaltéra les assoiffés. Il réveilla les négligents et attira l'attention des insouciants sur les secrets divins. Il déclara l'unité de l'humanité et répandit de tous côtés son enseignement sur l'égalité des hommes. Voilà pourquoi vous tous devriez de tout votre cœur et avec tout votre esprit vous comporter de manière à conquérir les hommes avec amabilité afin que cette grande unité s'établisse, que les superstitions infantiles disparaissent et que tous deviennent un. Chapitre 1.13 Discours chez Madame Thornburg Cropper. Mercredi 13 septembre 1911. Nota, Madame Thornburg Cropper fut la première bailli des îles britanniques. Thomas Breakwell étant le premier britannique, résidant à l'époque à Paris, à s'être déclaré bailli. Abdu'l-Baha dit « Grâce soit rendue à Dieu, c'est une bonne réunion. Elle est très illuminée, elle est spirituelle. » Un poète persan a écrit « L'univers céleste est ainsi formé que le monde inférieur réfléchit le monde supérieur. » Cela revient à dire que ce monde phénoménal réfléchit tout ce qui existe au paradis. Maintenant, louange soit à Dieu, cette réunion est un reflet du concours céleste. C'est comme si nous avions pris un miroir pour nous y regarder. Ce reflet du concours céleste, c'est l'amour. Parce que l'amour céleste existe dans le concours suprême, il se reflète ici. Le concours suprême est plein de désirs envers Dieu. Rendons grâce à Dieu. Ce désir est aussi présent ici. Voilà pourquoi, si nous disons que cette réunion est céleste, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous n'avons nul autre désir que celui qui vient de Dieu. Nous n'avons nul autre but que la mention de Dieu. Des hommes sur terre rêvent de conquête. Certains aspirent au repos et à l'aisance. D'autres désirent une haute position. D'autres encore souhaitent devenir célèbres. Grâce à Dieu, notre désir est la spiritualité et l'union avec Dieu. Maintenant que nous sommes rassemblés ici, notre souhait est de hisser la bannière de l'unité de Dieu, de répandre la lumière de Dieu, de faire en sorte que le cœur des hommes se tourne vers le royaume. En conséquence, je rends grâce de nous confier cette mission importante. Je prie pour vous tous, que vous deveniez des guerriers célestes, que vous répandiez partout l'unité de Dieu et illuminiez l'Est et l'Ouest, et que vous communiquiez à tous les cœurs l'amour de Dieu. C'est mon plus cher désir, et je prie Dieu que votre désir soit identique. Je suis très heureux d'être avec vous. J'apprécie votre roi d'Angleterre, votre gouvernement et votre peuple. Puissiez-vous rendre grâce à Dieu d'être libre dans cette contrée. Vous ne savez pas combien la liberté manque à l'Est. Quiconque vient dans ce pays y est heureux. Je souhaite pour tous la protection de Dieu. Au revoir à tous.